Alors, avec cette grande chaleur-là, on dirait que ça ne veut pas nous lâcher. C'est comme la grippe, hein? Mais on va terminer un peu cette courte série qui commençait à Éphésiens chapitre 2, verset 1, qui nous a conduit au verset 8 et 9, et ensuite le verset 10, qui est la toute-puissance de Dieu, mais j'ai rajouté dans les œuvres. Et j'aimerais débuter ce matin en posant cette question-là. Quelle différence le salut fait dans nos vies? Quelle différence fait le salut dans nos vies? Réfléchissez bien. Pensez-y bien. Qu'est-ce que ça fait le salut dans ma vie?
L'espérance.
Quoi?
L'espérance.
L'espérance, OK. C'est autre chose? Gênez-vous pas, là. On est en famille.
Je dirais l'humilité.
OK. Bien, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui sont humbles. Linda, il y a des gens qui espèrent, mais espèrent en quoi?
La vie éternelle.
La vie éternelle. Ouais, ça, c'est spécifique.
La sagesse.
Il y a des hommes sages dans le monde, mais la sagesse de Dieu.
On n'est plus tout seul.
Oui, ça c'est fait. C'est un fait. On n'est plus tout seul en Christ. Dans le Seigneur. C'est ça. Le salut personnel est important parce que sans le salut, on ne peut pas devenir un enfant de Dieu, ni recevoir la vie éternelle. Et en plus de ça, ça fait vraiment une différence dans notre vie de tous les jours. Du moins, ça doit. Ayant été sauvé, étant né de nouveau, on devient un enfant de Dieu et on vit maintenant une nouvelle vie de dévouement envers Dieu. Et le mot dévoué ici, c'est on se dévoue pour le Seigneur. Il y a des gens qui se dévouent pour leur travail, il y a des gens qui se dévouent pour leurs enfants, il y a des gens qui se dévouent pour leur famille, leur épouse. Tout cela, c'est bien, là. Mais on a toujours les yeux fixés pour le Seigneur. Ce qui m'amène à une autre question. Vous allez dire, il est allé un matin que ces questions. Mais est-ce qu'il y a eu des changements dans notre vie depuis notre nouvelle naissance? Là, je ne veux pas que vous répondiez, mais je veux que vous vous examiniez. Ça fait combien de temps je suis sauvé? 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. 2 mois. Y a-t-il eu des changements au cours des années? Il faut qu'il y ait eu des changements dans vos vies, dans ma vie, à cause du salut. Parce que sans ça, de la misère à comprendre. Pourquoi tu dis que tu es sauvé? On dit qu'on reconnaît un bon arbre à ses fruits. Portes-tu des fruits depuis que tu es sauvé? As-tu fait une semblable de profession de foi pour plaire à ton conjoint? Est-ce que pour toi, la vie chrétienne, la Bible, la parole de Dieu, l'Église, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas pantoute? Il faut qu'il y ait des changements dans la vie d'un homme ou d'une femme qui sont sauvés par grâce, qui sont nés de nouveau et qui avancent pas à pas dans la vie chrétienne. C'est normal qu'après 2 mois, 3 mois, c'est peut-être moins évident. Mais des gens que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui a changé. Vous savez, par la nouvelle naissance, on a reçu ce pouvoir-là en nous de résister à la tentation au péché. Ça, c'est une des choses qui devrait être marquante dans notre vie chrétienne. On a le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on ne tombe pas parfois, mais on a le pouvoir de résister au péché, aux tentations, c'est-à-dire du péché. Lorsque la tentation arrive, il y a quelque chose que je possède qui m'amène à dévier de cette tentation-là. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'ai sa parole. J'ai des frères et des sœurs qui peuvent m'aider. Il y a d'autres choses aussi. Donc, je peux résister au péché et je dois vivre une vie qui plaît à Dieu. Puis en plus de ça, il y a d'autres choses qu'on a. C'est qu'on a une nouvelle destinée. On a changé de chemin en route. On a fait un 180, pas un 360, mais un 180. On s'en allait en enfer. Et là, on a changé de direction. Puis on s'en va vers le ciel. C'est merveilleux, hein? Vous savez, ce genre de questionnement-là doit se faire en dedans de nous, doit se faire pour chacun de nous. Parce qu'on veut voir, premièrement, les changements que Christ opère dans nos vies. On veut voir si on est, comme Paul dit, dans la vérité de l'Évangile. Paul dit de s'examiner pour voir si on est dans le bon chemin. Et puis, c'est bon de regarder en arrière juste pour voir que 30 ans passés, j'étais une personne comme ça. Puis je vois l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je vois que le Seigneur travaille dans ma vie. Et au verset 10 de Éphésiens 2, Paul ici termine ce qu'on appelle la première section de sa lettre. Et il répond à cette question pratique. Quelle différence le salut fait dans ma vie? Il vient de finir les versets 1 à 9. On a vu quelques semaines passées les versets 8 et 9. C'est par grâce qu'on est sauvé. par le moyen de la foi, ça ne vient pas de nous autres, c'est le cadeau de Dieu, le don de Dieu. Et maintenant, on est rendu au pourquoi. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Quelle différence le salut fait dans ma vie? Mais avant de continuer, on va se courber. Papa du ciel, merci pour cette parole qui est une parole vivante, qui est une parole qui a un sens pour nous, tes enfants, pour chacune de nos vies. Merci parce que on n'est pas seul. Merci parce que tu marches avec nous, Seigneur. Et que notre destinée, c'est la vie éternelle. On va passer l'éternité avec toi si on est né nouveau. Quelle grâce! Quel salut! Quelle œuvre toute puissance de ta part, Seigneur! Et ce matin, fais silence en nos cœurs de façon à ce qu'on puisse recevoir l'enseignement que tu as mis en mon cœur, Seigneur, pour le partager avec mes frères et mes sœurs. C'est toi, Seigneur, qui parles. C'est toi qui es à l'œuvre, Seigneur, par le simple outil de ma voix. Merci pour toutes choses, Père. En Jésus, on te prie. Amen. On va, pour ainsi dire, éplucher le verset 17, le verset 10, excusez-moi. Et au début, Paul dit, car nous sommes son ouvrage. Regardez bien le verset 10, là. Car nous sommes son ouvrage. Le début. On va y aller petit peu par petit peu. Ici, le mot grec pour ouvrage, c'est le mot poema. Et ce mot-là dérive du mot anglais poème. Vous savez, c'est quoi un poème? C'est quelque chose que quelqu'un a écrit. Mais dans sa racine, le mot veut dire un produit manufacturé. Nous sommes un produit manufacturé. Un produit qui est fait pour accomplir quelque chose. Il y a un but. On n'est pas juste mis sur une tablette comme une canne de jambon ou quoi que ce soit. Non, on est un produit manufacturé pour accomplir quelque chose. Et le verset 10 de Éphésiens 2, c'est souvent un texte qui est souvent, je me répète, négligé par plusieurs. Mais c'est un verset important et ça vaut la peine d'y porter une attention qui est particulière. Donc, Paul répond à la question posée au début, à savoir quelle différence fait le salut dans nos vies. Hein? C'est la question que je vous ai posée. Et là, il dit, car nous sommes son ouvrage. Après avoir tout lu les versets 1 à 9, là, tu t'assis dans ta chaise puis tu dis, ben oui, mais quelle différence ça fait dans ma vie, le salut? Et Paul vient dire au verset 10, car nous sommes son ouvrage. Le résultat du salut, c'est que nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, et non de nous-mêmes. On n'est pas des self-made Christians. Hein, on a l'expression self-made man hein, dans le monde, mais on n'est pas des self-made Christians. C'est pas à cause de nous qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, excusez-là. Donc, j'irai même jusqu'à dire qu'un croyant né de nouveau, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Et contrairement aux statues et aux peintures qui sont accrochées sur les murs des musées, on est désigné pour être des chefs-d'œuvre en action. On ne reste pas accroché. On est en production. Si on continue dans le verset, c'est que nous sommes son chef-d'œuvre, mais nous avons été créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que son chef-d'œuvre n'est rien moins qu'une nouvelle création par notre union avec Christ. On est une nouvelle créature en étant unis à Christ. On fait partie de la nouvelle création de Dieu. Et on va voir par rapport à cela 2 Corinthiens 5, 17 qui dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, hein, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ce que nous sommes. Et Dieu continue son travail en nous afin de faire de nous ce qu'il veut. Les gens du monde vont dire parfois qu'on est des marionnettes, qu'on n'est pas capable de faire rien par nous-mêmes. Et là, ils prennent des passages ou des commentaires comme cela pour nous insulter. Peu importe. Nous, on sait la vérité. On sait que, si je continue dans le verset 17, les choses anciennes sont passées. Notre ancienne vie, elle est passée. On est toutes et toutes choses, c'est-à-dire, sont devenues nouvelles. Et son but à Dieu, c'est de faire en sorte que nous soyons semblables à Christ. J'aime le chant « Te ressembler Jésus ». Ce n'est pas un long chant, mais c'est un beau chant. Hein, c'est mon espoir suprême, Seigneur, de vouloir te ressembler. Romains 8, 29 dit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, » c'est qui ça? C'est nous, les chrétiens. Ceux qui sont nés de nouveau. « Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Donc, on est prédestiné à ressembler à Jésus afin que son fils soit le premier né de plusieurs frères. Voyez-vous l'association qu'on a avec Christ? Et Dieu veut achever son œuvre en nous afin qu'on ressemble de plus en plus à son fils Jésus. Mais comment Dieu œuvre-t-il en nous? Et c'est là que j'en viens à la puissance de Dieu. C'est par sa toute-puissance en l'œuvre de Jésus-Christ. Gardez bien Philippiens 2, 13. Paul dit ceci, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu, la toute-puissance de Dieu. Et là, je vais revenir un peu en arrière dans le sens que Dieu a été aussi à l'œuvre en Christ. Hein? Parce que Christ a accompli son œuvre de rédemption sur la croix. Il est ressuscité des morts. Il est retourné au ciel et tout cela par la toute-puissance de Dieu. Vous lirez, prenez-le en note, Éphésiens 4, 7 à 16. Éphésiens 4, versets 7 à 16. Puis je vais vous lire Hébreux 13, 20 à 21. Regardez bien ce que l'auteur aux Hébreux nous dit. Il dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, qui est Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est parce que Dieu est tout-puissant qu'il a ressuscité le Christ, qu'il l'a ramené au ciel, qu'il nous a sauvés et que maintenant, il a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin qu'on les accomplisse. La toute-puissance de Dieu a fait que Christ est celui qui nous équipe pour notre marche et pour nos bonnes œuvres sur la terre. Et pour accomplir cela, il va utiliser trois outils spéciaux. Le premier de ces outils, c'est la parole de Dieu. Excusez-moi. Pour ceux qui veulent tourner dans 1 Thessaloniciens 2, 13, le verset, je crois, qui était à l'affiche. Paul dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu. Il dit ça aux Thessaloniciens. On rend grâce à Dieu parce que lorsque vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais aussi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, la parole de Dieu, c'est un des outils que Dieu va utiliser pour qu'on puisse avoir une bonne marche dans le Seigneur et qu'on puisse accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Lire la parole de Dieu, la comprendre, la méditer et se tourner et se nourrir, c'est-à-dire de cette parole-là, eh bien, elle se met à l'œuvre dans nos vies. Si tu me dis, il n'y a absolument rien qui se passe dans ma vie au niveau spirituel, je vais te répondre tout de suite, où est-ce que tu en es avec ta lecture de la parole? Cette parole-là, lorsqu'on la lit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous purifie, puis elle nous nourrit. On ne peut pas passer à côté de ça comme chrétien. Tu ne peux pas dire « je suis un chrétien, je suis une chrétienne », puis tu n'as jamais le nez dans la parole de Dieu. Je ne dis pas une coupe de versets, là, ça, là, les pains quotidiens, c'est bon, mais d'avoir un temps dans une lecture conséquente et puis suivie de la parole de Dieu, la méditant, se nourrissant de cette parole. Ensuite, le deuxième outil, c'est la prière. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Paul dit, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Au-delà de tout ce que nous demandons et qui pensons, et pensons, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie? On discute avec le Seigneur, on demande des choses, on l'adore. Par la prière, l'Esprit de Dieu opère en nous pour nous fortifier. nous rendre plus forts. C'est par l'encouragement de la prière. C'est par la communion dans la prière lorsqu'on se réunit le mercredi soir. C'est comme ça que l'Église se fortifie, s'édifie. On n'est pas indépendant l'un de l'autre. Nous sommes le corps de Christ. Et un corps a besoin de tous ses membres. Et le troisième outil, c'est la souffrance. Là, vous ne la trouvez pas drôle, celle-là, hein? Il y a un passage dans 1 Pierre 4, versets 11, 12, 13 et 14. Mais je vais lire à partir du verset 12. Pierre dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Hein? Soyons pas surpris lorsque l'épreuve arrive dans nos vies. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et au verset 14, il dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Ça, c'est tout à fait négatif à ce que le monde va vous dire. Ah, c'est pas correct souffrir. Es-tu malade de te réjouir quand tu souffres? Voyons. Quand on a des preuves, là, on prend l'air piteux. Là, on se dit, oh, je passe à travers d'une épreuve. Là. Non. Puis je me parle à moi-même aussi. Il faut se réjouir. Puis je parle pour rien de la maladie, là, parce que la maladie, c'est des choses, des fois, qu'on, c'est difficile. Mais quand on souffre pour Christ, lorsqu'on est outragé à cause du nom de Christ, smile. Vous savez, en souffrant, l'Esprit de Dieu opère en nous. Pas pour rien qu'on a des épreuves. La souffrance, elle, nous renvoie à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous renvoie à la prière. Et le cycle se répète. Hein? Quand on souffre, on va trouver de la puissance pour s'en sortir dans la parole de Dieu, l'encouragement qu'on a besoin. Et par la prière, eh bien, on va partager, on va donner à Dieu ce qu'on a sur notre cœur. Ensuite, Paul dit, pour les bonnes œuvres, pour des bonnes œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Le but de cette nouvelle création est exprimé par cette phrase-là, « pour des bonnes œuvres », le but. C'est vrai, hein? On n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il est tout aussi vrai de dire que nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas la racine, mais c'est le fruit qui va en ressortir. On ne produit pas des bonnes œuvres dans notre vie pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et c'est ça que Jacques parle dans Jacques 2, 14 à 26. J'avais mentionné de lire, mais je ne le ferai pas parce que vous lirez vous-même. Hein? C'est votre responsabilité d'aller dans la Bible à tête et de fouiller. Mais dans Jacques 2, 14, 26, je vais juste passer tout droit à ça parce que. Mais je vais vous résumer ce que Jacques veut qu'on comprenne. Quand Jacques dit la foi sans les œuvres est morte, il ne veut pas dire que nous sommes sauvés par la foi plus les œuvres, mais par la foi qui produit en nous une vie de bonnes œuvres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Les œuvres, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça prouve la réalité de notre foi. Et Paul est d'accord avec ça. On est son ouvrage. On a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, c'est ce qu'il dit. Et voici l'ordre qui a été fixé par Dieu. La foi et le salut et les bonnes œuvres et la récompense. La foi aboutit au salut. Le salut résulte en de bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres seront récompensées par le Seigneur. C'est ça ce qu'on appelle l'ordre qui a été fixé par Dieu. Et Paul termine ce verset-là en disant que ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Il y a une question qui se pose encore une fois. C'est, quelles sont ces bonnes œuvres que je suis supposé faire? Je parle de bonnes œuvres, parce qu'il y a des œuvres qui sont inutiles. Et Paul répond, des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Donc, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous. Et ces bonnes œuvres-là sont accomplies par nous. Ces bonnes œuvres-là, elles ont été préparées d'avance, c'est-à-dire avant qu'on soit né. C'est pour ça que l'élection est importante. Si Dieu a préparé des œuvres pour nous avant qu'on soit né, il fallait qu'il sache qu'on soit sauvé. Donc, c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Son plan pour nos vies ne se termine pas lorsqu'on croit au message de l'Évangile. C'est pas fini, là. Son plan ne se termine pas lorsqu'on reçoit le salut éternel par grâce, par le moyen de la foi, puis sans les œuvres. L'expérience du salut marque simplement le commencement de notre vie chrétienne comme une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça que le passage dit. Le plan de Dieu s'étend au-delà du salut à la sanctification, au-delà de la grâce en marchant dans des bonnes actions. Dieu a un plan pour chacune de nos vies, c'est-à-dire qu'après le salut, ça continue. Avant même notre conversion, Dieu prépara un schéma pour notre carrière spirituelle. Et on a la responsabilité de trouver quelle est sa volonté pour nous et ensuite d'y obéir. On n'a pas besoin d'élaborer un plan pour notre vie. Ce n'est pas nécessaire. On n'a qu'à accepter le plan que Dieu a dessiné pour nous. Et pour le savoir, bien, c'est lire la parole de Dieu. À travers la lecture de la parole de Dieu, on va voir c'est quoi le plan de Dieu pour nos vies. Donc, à cause de cela, on est libéré de toute anxiété, de toute passion, c'est-à-dire à vouloir préparer quelque chose pour nos vies. Il faut que je prépare mon plan de vie. Et notre vie pourra servir à glorifier Dieu au maximum. Notre vie va servir à être une grande bénédiction pour les autres, pour les frères, les sœurs dans le Seigneur, pour ceux de l'extérieur même, et aussi afin d'obtenir la plus grande récompense. Les sœurs, on est son travail, son chef-d'œuvre. Puis la beauté de son œuvre témoigne de la compétence de l'artiste. Dieu n'a pas manqué son coup avec toi. Non, Dieu est l'artiste. Je conclue par ceci. Éphésiens 2:10 décrit comment le grand artiste divin a utilisé du matériel brisé. C'est ce qu'on voit à partir du verset 1 jusqu'à 3 dans Éphésiens 2. Ensuite a débuté le processus de produire une œuvre glorieuse à partir du verset 4 jusqu'à 10. Ça a commencé par une miraculeuse résurrection de la mort spirituelle. Pensez-y, le verset 3. On était mort spirituellement. Et ça revient au verset 5 et 6 aussi. Et là, ça va atteindre son point culminant dans l'étalage de l'ultime richesse de sa grâce dans les temps futurs. Dieu va achever son œuvre lorsqu'on va paraître devant lui. Au verset 7, lorsque Paul s'exclame, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire celle de la rédemption dans nos vies, est destinée à lui apporter la gloire et l'honneur à travers toutes nos bonnes œuvres. Lorsqu'on fait des bonnes œuvres, c'est pas pour nous glorifier, c'est pas pour se glorifier, c'est pour glorifier Dieu. Matthieu 5, 16, hein? Jésus a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, que nos bonnes œuvres, que notre manifestation d'être des chrétiens luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. C'est ça qu'il faut montrer. Puis je pense que les gens à l'extérieur ne le voient pas assez. Comment est-ce qu'on trouve les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous? Bien, comment est-ce qu'on y arrive, c'est-à-dire? Premièrement, on doit confesser et abandonner, c'est-à-dire chaque péché aussitôt que nous sommes conscients. Lorsqu'on vit une vie de péché, imaginez-vous pas qu'on fait des bonnes œuvres. Donc, il faut abandonner, confesser nos péchés. Nous abandonner à lui continuellement et inconditionnellement. C'est pas selon mes conditions, mais c'est selon les conditions de Dieu, et ça, tout le temps. Troisièmement, étudier la parole de Dieu afin de discerner sa volonté et ensuite faire tout ce qu'il nous dit de faire. Quatrièmement, passer du temps en prière chaque jour. Cinquièmement, saisir les occasions de rendre service au fur et à mesure qu'elles se présentent. Sixièmement, rechercher la communion et les conseils de d'autres chrétiens. Voilà. Comment est-ce qu'on va être capable, à travers tout ça, de trouver les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous? Notre salut, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Dieu nous prépare pour des bonnes œuvres et il prépare des bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les exécutions. Ensuite, bien, il va nous récompenser, comme je l'ai dit tantôt, quand nous les accomplirons. L'œuvre de Dieu en nous devrait produire en nous des remerciements, des louanges et tout honneur. Et cela devrait attirer l'attention des autres sur Dieu et non sur moi. telle est la puissance de Dieu, telle est sa grâce. Amen.